Le ciel, par W. Trottet, édition 1921. Avertissement. Dans le texte, lorsque l'auteur de l'écrit a cité expressément la parole, celle-ci correspond à la version utilisée à son époque, fin du XIXe siècle, ce qui explique ainsi des différences avec la version actuelle. Lorsque seule la référence biblique a été donnée, c'est la version Darby, plus récente, qui a été lue. Je désire rassembler, dans l'Écriture, les instructions qu'elle nous donne touchant le ciel, que nous le regardions comme l'objet présent de nos affections ou comme notre habitation future, participant de l'appel céleste. Hébreux 3, verset 1. Nous avons intérêt à nous enquérir de ce qui concerne le lieu vers lequel nous nous dirigeons et, déjà, assis ensemble dans les lieux célestes dans le Christ. Éphésiens 2, verset 6. Nous ne faisons ainsi que contempler les objets au milieu desquels la grâce de Dieu nous a placés. Que le Saint-Esprit dirige et bénisse, et ceux qui lisent, et le pauvre pécheur racheté, qui essaie d'écrire sur un pareil sujet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Telles sont les paroles par lesquelles commence le livre inspiré. Ce n'est cependant que lorsque nous arrivons au milieu du volume que nous apprenons dans quel but ces deux sphères séparées ont été créées. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Psaume 115, verset 16. Mais tandis que tel était le but général et ostensible de Dieu, nous apprenons d'un autre passage de l'Écriture que, déjà, dès avant la création du monde, le dessein de Dieu était de placer les saints dans le ciel. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donné à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l'Assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur. Éphésiens 3, versets 9 à 11. Ainsi, nous voyons que, tandis que ni le ciel, ni l'enfer n'étaient faits pour l'homme, puisque c'est le péché qui a précipité la famille humaine dans l'enfer, et que ce n'est que la grâce qui a pu prendre occasion du péché de l'homme pour ouvrir le ciel à des pécheurs pardonnés, le dessein d'après lequel ce miracle s'accomplit est un dessein éternel. Dieu, prévoyant la chute de l'homme, s'est proposé de toute éternité d'en sortir quelques-uns de cette race déchue, pour les placer avec son Fils glorifié, dans le ciel, dont le psalmiste nous dit qu'il est à l'Éternel, tandis que c'est la terre qu'il a donnée aux enfants des hommes. Ce n'est donc pas par accident, mais selon le dessein éternel de Dieu, que, au lieu d'être seulement bénis de bénédictions temporelles sur la terre, nous nous trouvons béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Et si nous nous demandons comment il est possible que nous ayons ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu, que sa réponse nous rassure et nous donne le courage de contempler par la foi l'héritage dont nous avons été faits cohéritiers, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 7. L'Ancien Testament ne nous donne guère d'instructions quant au ciel que d'une manière typique. Nous y lisons en vérité, quant à Enoch, qu'il marcha avec Dieu, mais qu'il ne parut plus car Dieu le prit. Genèse 5, verset 24. Et Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, par Dieu le prit. Mais ce n'est que dans le Nouveau Testament que nous avons ces paroles explicatives. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Hébreux 11, verset 5. De même, quant à Abraham, Isaac et Jacob, nous lisons dans la Genèse le récit de leur pèlerinage, et nous sentons qu'il devait y avoir quelque attraction puissante pour agir ainsi sur leur cœur et les rendre étrangers à la terre. Mais ce n'est aussi que dans l'Épître aux Hébreux que nous apprenons le secret de tout cela. D'Abraham, il est dit qu'il attendait la cité qui a les fondements et dont Dieu est l'architecte et l'ouvrier. Hébreux 11, verset 10. Et de ceux qui faisaient profession d'être étrangers et forains sur la terre, il est dit que ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et, en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir de s'appeler leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Versets 13 à 16. Les patriarches et les autres saints de l'Ancien Testament regardaient sans doute en avant vers la résurrection et une patrie céleste. Mais c'était dans l'exercice d'une foi qui allait au-delà de la dispensation sous laquelle ils étaient placés. Aussi n'est-ce pas de leur histoire, mais de la manière dont il est parlé d'eux dans le Nouveau Testament, que nous apprenons le caractère céleste de leurs espérances. L'économie elle-même, celle au moins sous laquelle Israël était placé, était essentiellement terrestre. Le ciel est simplement regardé, dans l'Ancien Testament, comme la demeure de Dieu et de ses anges, ou, en un mot, comme la source de l'influence qui s'exerce sur les choses d'ici-bas, qu'elles soient envisagées comme actuelles ou comme futures. Ainsi, nous lisons dans l'Ancien Testament « L'Éternel est Dieu dans les cieux » Deutéronome 4, verset 39. À l'Éternel appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Deutéronome 10, verset 14. Dieu habite au plus haut des cieux. Job 22, verset 12. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Psaume 103, verset 19. Ainsi a dit l'Éternel, les cieux sont mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Ésaïe 66, verset 1. Voilà quelques passages qui parlent du ciel comme du séjour de Dieu, du siège de sa gloire, du lieu depuis lequel il gouverne le monde. Nebuchadnetsar a dû être chassé pour apprendre cela, car il lui est dit « Ton royaume te demeurera dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. » Daniel 4, verset 26. Cela s'appliquait au temps d'alors. Cela s'applique aussi au temps d'aujourd'hui. Mais cela s'appliquera plus particulièrement au temps futur, au royaume millénial, et pour cette époque, nous trouvons dans l'Ancien Testament un grand nombre de prophéties.
Il arrivera en ce temps-là, dit l'Éternel, que j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre, et la terre exaucera le froment, et le moût, et l'huile, et eux exauceront Jisréel.
Ce qui signifie semence de Dieu. Osée 2, versets 21 et 22.
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre, tu as mis ta majesté au-dessus des cieux.
Psaume 8, verset 1.
Attribuez la force à Dieu. Sa majesté est sur Israël, et sa force est dans les nuées. Tu es terrible, ô Dieu, du milieu de tes sanctuaires. Le Dieu d'Israël est celui qui donne la force et la puissance à son peuple. Béni soit Dieu. Psaume 68, versets 34-35. Tu fis entendre des cieux le jugement. La terre en a eu peur et se tint tranquille, quand tu te levas, ô Dieu, pour le jugement, pour sauver tous les débonnaires de la terre. Psaume 76, versets 8 et 9. La vérité germera de la terre et la justice regardera des cieux. Psaume 85, verset 11. Car l'Éternel a regardé des lieux hauts de sa sainteté. Des cieux, l'Éternel a considéré la terre pour entendre le gémissement des prisonniers et pour délier ceux qui étaient voués à la mort, afin qu'on annonce le nom de l'Éternel en Sion et sa louange dans Jérusalem. Psaume 102, versets 19 à 22. Ô cieux, distillez d'en haut, et que les nuages fassent ruisseler la justice, que la terre s'ouvre, et que, à la fois, le salut se produise, et la justice germe. Moi, l'Éternel, j'ai créé cela. Ésaïe 45, verset 8. Telle est la lumière que l'Ancien Testament jette sur ce sujet. Le ciel est envisagé comme le trône de Dieu et comme la source d'où découle la bénédiction pour la terre. Mais que le ciel serait peuplé d'habitants choisis parmi les habitants corrompus de la terre, et que, dans la gloire à venir, quand l'influence bénie du ciel s'étendra sur la terre, cette influence serait exercée par des hommes, c'était là des vérités dont la révélation était réservée pour une autre économie. C'est à nous qu'elles sont annoncées par ces paroles. Ce n'est pas aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons. Hébreux 2, verset 5. La terre habitable à venir ne sera pas sous le gouvernement des anges, mais sous celui de l'homme, d'abord de ce Fils de l'homme, dont il est parlé dans ce huitième psaume, ensuite de tous ces fils des hommes qu'il amène à la gloire, et que, comme prince de leur salut, il n'a pas honte d'appeler ses frères. Hébreux 2, versets 10 et 11. Mais n'anticipons pas. Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Car est celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous n'avons pas besoin de lire bien loin dans le Nouveau Testament pour nous apercevoir que nous sommes, pour ainsi dire, dans un autre élément que celui qui caractérise l'Ancien. Ce n'est plus exclusivement, ou au moins principalement, l'homme, son monde, ses épreuves sur cette terre, avec Dieu à distance et derrière le voile, quoique tout cela soit accompagné de magnifiques promesses, d'une bénédiction et d'une gloire future. C'est le Fils de Dieu lui-même descendu du ciel, manifestant ce qu'est le ciel, ouvrant le ciel et devenant, par sa mort et par sa résurrection, le chemin par lequel de pauvres pécheurs montent au ciel. Et quoique cette nouvelle et céleste lumière n'éclate pas immédiatement dans toute sa plénitude, quoique le premier évangile présente Christ plutôt en connexion avec les Juifs, comme fils de David et fils d'Abraham, comme
serviteur de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour la confirmation des promesses faites au Père.
Romains 15, verset 8. Il est pourtant, quant à sa personne,
Emmanuel, Dieu avec nous,
Matthieu 1, verset 23, et sa gloire ne peut être cachée. Même quand il cherche à la cacher, sous le voile d'une humilité, dans laquelle, quoique lui-même sans péché et saint, il s'identifie avec le résidu repentant d'Israël, dans l'acte même par lequel ils confessent leurs péchés, le ciel s'ouvre, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe, et une voix des cieux crie
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. »
Matthieu 3, verset 17. Comme la lumière du ciel éclate ici, le béni de Dieu lui-même est du ciel, et nous voyons en lui l'image parfaite de ce que le ciel est. L'homme et la terre a jusqu'à présent pris son caractère de l'homme. L'homme cherche à s'exalter lui-même. Voici quelqu'un qui s'humilie lui-même si profondément que, quoique la sainteté même, il condescend à prendre place au milieu de ceux qui confessent leurs péchés. Il n'avait point de péché, ou, selon les paroles plus expressives de l'Écriture, il n'avait pas connu le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21.
Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous.
Et néanmoins, il s'identifie lui-même avec le résidu repentant dans ce premier mouvement de leur cœur vers Dieu et, à tout ce que Jean-Baptiste avance pour l'arrêter, il répond simplement
« Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. »
Matthieu 3, verset 15. Quel contraste entre le ciel et la terre! Les seules personnes de la terre en qui l'Esprit de Dieu agissait alors, au lieu de se justifier et de s'exalter, confessaient leurs péchés et justifiaient Dieu. Voici quelqu'un du ciel. Où le conduisent ses affections célestes? Précisément vers cette troupe au cœur brisé. Et le ciel, répondant à cette parfaite expression des sentiments du ciel de la part de celui qui descendait du ciel, s'ouvre et proclame ses délices.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir.
Divin Jésus, attire-nous vers toi afin que nous suivions tes traces. Mais cette lumière céleste est trop pure pour l'égoïsme et l'orgueil de l'homme, et tous ceux qui la reçoivent et la reflètent ne peuvent pas s'attendre à être mieux traités des hommes que ne l'a été celui qui, dans sa propre personne, a apporté cette lumière sur la terre. Mais s'ils sont rejetés de la terre, le ciel ne leur sourit que davantage, et il est intéressant de voir comme, de bonne heure, le Maître dirigea les yeux de ses disciples de la terre au ciel.
Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui sont dans le deuil. Bienheureux ceux qui sont doux. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Bienheureux les miséricordieux. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Bienheureux les pacifiques. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand, à cause de moi, l'on vous outragera, et qu'on vous persécutera, et qu'en mentant on dira toute espèce de mal contre vous. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, car votre salaire est grand dans les cieux.
Matthieu, versets 3 à 12. C'est autre chose que le langage de la loi. Elle parle des bénédictions de ceux qui obéissent à Dieu d'une toute autre manière.
Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de ton ventre sera béni et le fruit de ta terre, et le fruit de ton bétail, les portées de tes vaches et les brebis de ton troupeau. Ta corbeille sera bénie et ta huche aussi. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est réclamé sur toi, et auront peur de toi.
Deutéronome 28, versets 3 à 10. Ce sont, comme on voit, des bénédictions exclusivement terrestres, tandis que, dans le Nouveau Testament, la récompense de ceux qui souffrent est dans les cieux. ceux qui, attirés par la lumière du ciel et par l'amour de Jésus, auront suivi ses pas et participé à sa réjection sur la terre, trouveront, comme lui, leur consolation et leur récompense dans le ciel, une consolation si douce, une récompense si magnifique, que, au milieu de toutes leurs épreuves et de toutes leurs persécutions, ils pourront se réjouir et être dans l'allégresse. Jésus a manifesté non seulement la lumière du ciel, mais aussi l'amour du ciel, et il veut qu'il en soit de même chez nous.
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Matthieu 5, versets 44, 45 et 48. Si l'amour de Jésus a rempli nos cœurs de manière à ce que les plus grandes souffrances sur la terre ne produisent en nous que la joie et l'allégresse, cela se montrera par une ressemblance pratique à notre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Un païen ou un juif qui ne voyait pas au-delà de la terre ne pouvait aimer que ceux qui l'aimaient. Mais quand la grâce nous a ouvert le ciel et nous y montre notre Père, son cœur et ses voies deviennent nécessairement notre modèle. Vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Les instructions que notre Seigneur adresse à ses disciples quant à la prière jettent aussi une lumière précieuse sur ce qu'est le ciel. Ces instructions étaient parfaitement adaptées à l'état dans lequel ses disciples étaient alors, et dans leur esprit, aussi bien que, sous plusieurs rapports, dans leurs lettres, elles s'adaptent encore à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Notre Père qui est dans les cieux.
Matthieu 6, verset 9. Cela ne signifie pas seulement que Dieu habite dans les cieux, ce que l'Ancien Testament révélait déjà amplement, mais que maintenant Dieu, dans le ciel, se révèle de manière à ce que de pauvres pécheurs sur la terre peuvent lui dire
« Notre Père qui est dans les cieux ».
De plus, nous apprenons que ce Père est obéi, parfaitement obéi, dans le ciel, et qu'il n'y a qu'une seule volonté, la volonté infiniment parfaite du Père.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Heureux séjour. Point de contestation entre les créatures, point de propre volonté, point de désobéissance. Heureuse la famille, déjà sur la terre, où les enfants mettent leur bonheur à obéir à leurs parents, ou mieux encore, à prévenir leurs désirs avec une affection intelligente et à les accomplir même avant qu'on ait eu le temps de les exprimer. Quel profond bonheur n'y a-t-il pas dans l'esprit d'obéissance? Que ne doit pas être le ciel où chaque action, chaque parole, chaque mouvement du cœur est en parfaite obéissance à notre Père qui y habite. Et que sera la terre quand cette prière sera exaucée? Que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Hélas, quelle différence avec la terre d'aujourd'hui, et comme elle est parfaite et divine, cette sagesse qui veut que nous transportions nos trésors et nos cœurs de cette terre au ciel.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni teigne ni rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Matthieu 6, versets 19 à 22. Je voudrais que ces paroles fussent inscrites dans nos cœurs d'une manière indélébile. C'est en vain que nous essayerions d'avoir nos trésors en bas et nos cœurs en haut. N'est-ce pas là le secret de ce défaut d'affection céleste dont on se plaint si généralement, même là où la vérité divine est connue? Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Jean 13, verset 17. Vers la fin de l'évangile de Matthieu, nous avons un passage qui nous apprend que, dans le ciel, ces relations qui caractérisent l'existence ici-bas n'auront pas lieu. Les Sadducéens avaient pensé embarrasser notre Seigneur par une question relative à une femme qui, sans déroger à la loi juive, avait eu successivement 7 maris.
« Duquel des 7 en la résurrection, demandèrent-ils, sera-t-elle la femme ?»
Jésus, dans la perfection de sa sagesse, leur répliqua,
« Vous, vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, dans la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. »
Je cite cela seulement comme une démonstration évidente que, dans le ciel, nos relations divines avec Dieu et avec Christ en esprit, et les uns envers les autres en esprit, auront complètement remplacé ces relations humaines et charnelles, quoique légitimes, qui existent sur la terre. Nous serons
comme des anges de Dieu dans le ciel.
Matthieu 22, verset 23 à 30.
En ce jour-là, des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent à lui et l'interrogèrent, disant « Maître, Moïse dit, si quelqu'un meurt n'ayant pas d'enfant, son frère épousera sa femme et suscitera de la postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères, et le premier s'étant marié mourut, et n'ayant pas de postérité, il laissa sa femme à son frère. De la même manière, le second aussi et le troisième jusqu'au 7e. Et après eux tous, la femme aussi mourut. Dans la résurrection donc, duquel des 7 sera-t-elle la femme, car tous l'ont eue? Et Jésus, répondant, leur dit, « Vous errez, ne connaissant pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, dans la résurrection, on ne se marie, ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. »
Et nous n'y perdrons rien, bien-aimés. Si les relations terrestres ne trouvent pas de place dans le ciel, il y aura des relations qui rempliront tout le vide d'un cœur renouvelé. Nous les connaissons déjà maintenant par la foi, et éprouvons, quoique faiblement, leur effet béni sur nos âmes. N'est-ce pas cela qui nous est représenté en Matthieu 25, sous l'image de vierges sortant à la rencontre de l'époux? La nuit peut devenir longue et noire. La foi, l'espérance et la patience peuvent être éprouvées à l'extrême. Même ceux qui sont le plus éveillés et qui ont la plus grande provision d'huile peuvent, par manque de foi, céder, en quelque mesure, à l'engourdissement général, et la lampe peut avoir besoin d'être ranimée à l'approche de l'époux. Mais, quoi qu'il en soit, il y en aura qui, alors, entreront avec lui aux noces, et la porte sera fermée. Quelle joie ce sera que d'être en dedans. Mais une autre parabole dans ce chapitre nous parle encore de la félicité céleste et du bonheur de ceux qui habiteront avec Jésus. Ils sont représentés comme des serviteurs à qui leur maître a confié des biens pour être employés pour lui pendant son absence. Et quelle est la récompense qui est accordée à son retour à ceux qui ont employé fidèlement leurs talents à son service?
Bien, bonne et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.
Matthieu 25, verset 21. Oui, ce sera une partie de la félicité céleste, quoique le ciel ne se trouve pas mentionné ici, pour ceux qui auront envisagé les intérêts de Christ comme les leurs, et auront profité avec fidélité de toutes les occasions pour le glorifier, d'être admis par lui à la participation à sa joie, et de voir augmenter infiniment les occasions de servir celui dont tout leur bonheur est de lui rendre gloire. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. L'évangile de Marc ne diffère pas beaucoup quant au sujet qui nous occupe de celui de Matthieu. Une note de l'éditeur en bas de page. Mentionnons toutefois les dernières paroles de cet évangile de Marc.
Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu.
Fin de la note. Mais dans celui de Luc, nous trouvons, d'un bout à l'autre, l'expression morale de ce qu'est le ciel. Nous n'avons pas besoin d'attendre ici que Jésus ait atteint l'âge de 30 ans pour apprendre la joie du ciel au sujet de son incarnation sur la terre. La nuit même qu'il naquit, un ange du Seigneur visite les bergers qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et l'ange leur annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple.
Et aussitôt il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et, sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. »
Luc 2, verset 14. Quel témoignage que Jésus est le centre de la joie du ciel. Quel reproche adressé à notre indifférence pour celui qui a bien voulu se joindre à nous, comme il ne l'a jamais fait même pour les anges du ciel. Dans Luc 9, nous avons le récit de la vision que Pierre, Jacques et Jean eurent sur la sainte montagne. Cette vision, nous dit Pierre, révélait
la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce n'est pas en suivant des fables artificieuses qu'il avait fait connaître cette puissance, mais après avoir été témoin oculaire de sa majesté. 2 Pierre 1, verset 16.
Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoin oculaire de sa majesté.
Trois des évangélistes nous donnent le récit de cette transfiguration, et chacun d'eux mentionne des circonstances qui ne sont pas indiquées par d'autres. Mais tous nous dépeignent, d'une manière délicieuse, le bonheur dans lequel l'arrivée de notre Seigneur Jésus nous introduira. Nous verrons couvert de gloire celui qui, pour nos péchés, a consenti à être couvert de honte et d'opprobre. Matthieu dit.
Il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Matthieu 17, verset 2. Marc dit.
Ses vêtements devinrent brillants et d'une extrême blancheur, comme de la neige, tel qu'il n'y a point de foulon sur la terre qui puisse ainsi blanchir.
Marc 9, verset 3. Luc dit.
L'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair.
Luc 9, verset 29. Mais comment nos yeux pourront-ils supporter l'aspect d'une pareille gloire? C'est que nous serons nous-mêmes aussi dans la gloire.
Et voici, deux hommes, Moïse et Élie, s'entretenaient avec lui, apparaissant en gloire.
Luc 9, versets 30 et 31. De voir Jésus, d'être avec lui, d'être semblables à lui, n'est-ce pas le ciel? Mais de plus, ils s'entretenaient avec lui. Chaque évangéliste nous le dit.
Et voici Moïse et Élie, leur apparurent, parlant avec lui.
Matthieu 17, verset 3.
Élie leur apparut avec Moïse, et ils parlaient avec Jésus.
Marc 9, verset 4. et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie parlaient avec lui. Luc 9, verset 30. Ce n'était pas qu'ils parlaient à eux et qu'ils se tenaient à distance comme des esclaves qui reçoivent les ordres de leur maître. Non, ils s'entretenaient familièrement avec lui. C'est ce que nous ferons dans le ciel. Que sera-ce donc que le ciel? Et quel était le sujet de leur entretien? C'est Luc qui nous l'apprend.
Il parlait du départ qu'il allait accomplir à Jérusalem.
Luc 9, verset 31. Et ne sera-ce pas là aussi le sujet de notre éternelle admiration et de notre inépuisable louange? Puis,
une nuée vint et les couvrit.
Verset 34. Qu'est-ce que c'était que cette nuée?
Il vint de la nuée une voix.
Verset 35. Et Pierre nous dit que cette voix lui était adressée
par la gloire magnifique.
2 Pierre 1, 17. Il n'est donc pas étonnant si Pierre et les fils de Zébédée
eurent peur quand ils entrèrent dans la nuée.
Luc 9, verset 34. Quel homme, en effet, étant encore dans la chair, pourrait supporter d'être entouré par la gloire magnifique? Mais Moïse et Élie pouvaient le supporter. C'était, pour ainsi dire, leur élément. Ce sera aussi le nôtre dans le ciel. Et quelle parole prononçait cette voix?
Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir.
Matthieu 17, verset 5. Oui, c'est là la parfaite joie du ciel, communion avec le Père dans les délices avec lesquels il contemple son fils bien-aimé, et communion avec le Fils dans ses délices d'être l'objet de l'amour du Père. En continuant à lire l'évangile de Luc, nous y trouvons exprimé d'une manière frappante le caractère terrestre correspondant à la gloire céleste qu'il nous a été permis de contempler pour un moment.
Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.
Luc 9, verset 58. Et Jésus dit à ses disciples, qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur des Samaritains, parce qu'ils ne les recevaient pas,
« Vous ne savez de quel esprit vous êtes. »
Luc 9, verset 55. Cela nous montre quelle position acceptait celui à qui appartenait toute gloire. Dans le chapitre suivant, le ciel nous est présenté comme la place où les noms des disciples sont inscrits. Du résidu terrestre, dans les jours à venir, il est dit
« En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement pour les réchappés d'Israël. » Et le résidu en Sion et le reste dans Jérusalem sera appelé saint. Quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem,
etc. Ésaïe 4, versets 2 et 3. Mais notre évangéliste, ou plutôt le Seigneur lui-même, dont il rapporte les paroles, parle d'un registre encore plus précieux que celui-là.
Réjouissez-vous,
dit-il,
parce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Luc 10, verset 20. Israël montrait d'une manière trop évidente qu'il n'était pas préparé pour ces jours de bénédiction sur la terre dont les prophètes avaient parlé et que les psalmistes avaient chanté. Dans ce même chapitre, Jésus s'était lamenté sur ces villes dans lesquelles ses miracles avaient été opérés sans effet. Ses disciples étaient participants de sa réjection. Mais s'il n'y avait alors point de registre des vivants à Jérusalem, si Jérusalem elle-même devait devenir un lieu de désolation, comme cela arriva effectivement peu après, les disciples devaient savoir, et nous aussi devons savoir, qu'il y a un registre gardé dans le ciel. Heureux ceux dont les noms y sont conservés. Plus loin, l'évangéliste parle des serviteurs que le Seigneur trouvera éveillés quand il arrivera et leur annonce qu'il deviendra lui-même leur serviteur. Bienheureux ces esclaves-là que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se scindera et les fera mettre à table, et, s'avançant, il les servira. Luc 12, versets 37 et 38. Serviteur ici pour nos besoins, Christ deviendra, dans la gloire, serviteur pour nos joies. Quel est celui dont le cœur n'a pas bondi de joie en lisant dans le chapitre 15 la description de ce qu'est le ciel? S'il est le séjour de la gloire, il est aussi la demeure de la grâce. Il n'y a pas de cœur qui ne batte à l'unisson avec la grâce de celui qui se révèle comme le Dieu de toute grâce. Le ciel ne regarde-t-il pas avec intérêt et sollicitude quand le bon berger part pour chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand, l'ayant trouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules, retourne à la maison et rassemble ses amis et ses voisins pour qu'ils se réjouissent avec lui, le ciel n'a-t-il pas d'écho pour cet appel?
Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent,
et pour la femme qui a retrouvé sa drachme et rassemble ses amis et ses voisines pour se réjouir avec elle, il est dit.
De même, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Et, quoique le ciel ne soit mentionné dans la parabole du fils prodigue que par le prodigue lui-même, qui dit à son père,
« Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. »
Quel est le but de toute cette parabole, si ce n'est de nous placer au centre de la joie du ciel et de nous montrer que la cause en est précisément le fait que nous y sommes?
Mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
Il n'est pas dit un mot de la joie du fils prodigue, et il n'y aurait effectivement pas eu de place pour ces paroles. Quand Dieu et tous les anges du ciel se réjouissent de sa résurrection, le silence de sa part exprime le mieux la profonde allégresse qui remplit son cœur. Il est vrai aussi que la parabole nous montre un frère aîné mécontent et envieux, mais il ne représente aucun des habitants du ciel. Son caractère est dépeint pour convaincre et confondre les pharisiens qui, rejetant la grâce de Dieu pour eux-mêmes, sous prétexte qu'ils n'en avaient pas besoin, s'opposaient encore à ce qu'elle débordât sur d'autres, à qui leur conscience en faisait sentir la nécessité. D'ailleurs, au fait, il est dit que le frère aîné
se mit en colère et ne voulut point entrer.
Mais l'enfant prodigue entre avec la plus belle robe, un anneau à sa main et une chaussure à ses pieds, et il trouve son père qui se réjouit avec lui et avec tous ses serviteurs qui partagent son allégresse. Oh, que ce tableau touche le cœur de ceux qui ont trop de propre justice pour entrer dans le ciel comme péagers et comme pécheurs, et qu'il remplisse aussi le cœur de ceux qui, comme fils prodigues, entrent déjà dans le ciel par la foi, en leur montrant cette grâce qui non seulement nous y reçoit, mais qui trouve sa plus vive et sa plus profonde joie à y recevoir des pécheurs misérables et déguenillés, tels que nous sommes. Un ciel de gloire ne serait pas un ciel pour des pécheurs s'il n'était en même temps un ciel de parfaite grâce, comme ce chapitre nous le révèle. Dans quelle heureuse harmonie avec ce qui précède ne se trouve pas le récit du brigand converti? Ce malfaiteur, qui s'était d'abord joint à son compagnon pour outrager Jésus, Matthieu 27, verset 44, eut ensuite le cœur si touché qu'il se mit à réprimander l'autre qui continuait ses injures et qu'il implora la grâce de Jésus par ses paroles.
« Souviens-toi de moi, Seigneur,
quand tu viendras dans ton royaume. Luc 23, verset 42. Matthieu 27, verset 44. Et les brigands aussi qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Il avait l'espérance juive d'un royaume terrestre, et il implore la miséricorde du Messie pour y être admis. Mais le Seigneur lui révèle en réponse quelque chose de plus immédiat, de plus intime et de plus excellent. Le paradis allait recevoir son propre esprit, qu'il allait remettre entre les mains du Père, et l'âme du pauvre criminel allait y être avec lui.
En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Tous les récits qui nous sont donnés par les évangélistes des rapports de Jésus ressuscité avec ses disciples jettent du jour sur notre état céleste. Quelque vrai qu'il soit que les âmes des saints qui se sont endormies sont auprès du Seigneur, néanmoins ce n'est qu'après la résurrection qu'elles jouiront de la gloire céleste. Et personne ne peut lire le récit des entrevues entre Jésus et ses disciples, après sa résurrection, sans remarquer la ressemblance entre ses apparitions et les diverses apparitions d'anges décrites soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament. Ce qui serait un empêchement pour le caractère charnel des corps dans lesquels nous sommes maintenant n'en était pas un pour le corps ressuscité de notre Seigneur. La manière dont il apparaissait à ses disciples était tellement différente de ce à quoi ils étaient accoutumés avant sa mort que, lorsqu'il se présenta soudain au milieu d'eux et leur dit
« Paix vous soit !»
Consternés et tout tremblants, ils pensaient voir un esprit. Luc 24, versets 36 et 37.
Et comme il disait ces choses, il se trouva lui-même là au milieu d'eux et leur dit « Paix vous soit !» Et eux, tout effrayés et remplis de crainte, croyaient voir un esprit.
Il les invita néanmoins à se convaincre que c'était bien lui-même, et plus que cela, que c'était bien son corps qu'il voyait.
« Voyez mes mains et mes pieds, que c'est moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous voyez que j'ai. »
Verset 39. Il mangea même devant eux, afin qu'aucun doute ne pût demeurer au fond de leur cœur. Cependant, que trouvons-nous en même temps dans ce chapitre? Jésus marche avec deux d'entre eux qui ne le reconnaissaient pas, et le prenaient pour un inconnu. Mais, quand il rompt le pain, leurs yeux sont ouverts, et ils le reconnaissent. Puis il disparaît de devant eux. Ils s'en retournent à Jérusalem, et trouvent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, disant
« Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. »
Les deux disciples d'Emmaüs racontent les choses qui leur étaient arrivées, et c'est comme ils disaient ces choses que Jésus se présente au milieu d'eux et qu'ils le prennent pour un esprit, comme nous l'avons déjà mentionné. Les portes du lieu où les disciples étaient réunis étaient fermées, comme nous l'apprend un autre évangéliste. Jean 20, verset 19. Mais ce n'était pas un empêchement pour Jésus. Jean 20, verset 19.
Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier de la semaine, et les portes du lieu où les disciples étaient, par crainte des Juifs, étant fermées, Jésus vint et se tint au milieu d'eux.
Quand il eut communiqué avec eux de cette manière pendant 40 jours,
il les mena dehors jusqu'à Béthanie, et,
élevant ses mains,
il les bénit. Et il arriva, qu'en les bénissant, il fut séparé d'eux, et il fut élevé dans le ciel.
Luc 24, versets 50 et 51. Quoi qu'il pût, dans son corps de résurrection, visiter pour quelque temps ceux qui étaient encore dans des corps de chair et de sang, se manifestant à eux, comme nous avons vu, le ciel, et non la terre, était néanmoins sa demeure. Et le ciel était encore sa demeure, dans un sens plus relevé que celui-ci. quoique la parole eût été précédemment faite chair, Jean 1, verset 14, elle a maintenant revêtu un corps spirituel, 1 Corinthiens 15, verset 44, et s'élève pour remonter au ciel son lieu d'origine, Jean 1, verset 14.
Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité.
1 Corinthiens 15, verset 44.
Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y en a aussi un spirituel.
Après avoir répandu son sang pour la rémission des péchés, et abandonné la vie qu'il avait reçue en prenant un corps charnel, Jésus la reçoit de nouveau dans la résurrection. Il peut dire
« Un esprit n'a pas de la chair et des os comme vous voyez que j'ai. »
Et néanmoins, l'apôtre Paul peut nous assurer
que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu.
1 Corinthiens 15, verset 50. Quoi qu'il y ait là des mystères que, aujourd'hui, nous ne pouvons comprendre et que nous devons nous contenter d'adorer, nous pouvons nous réjouir de voir dans tout cela des indications de ce que sera notre état après la résurrection. Aujourd'hui, notre chez-nous est le corps, mais alors notre chez-nous sera auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 9.
Car nous savons que, si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de mains, éternelle, dans les cieux. Car aussi, dans cette tente, nous gémissons, désirant avec ardeur d'avoir revêtu notre domicile qui est du ciel, si toutefois, même en étant vêtus, nous ne sommes pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans la tente, nous gémissons, étant chargés, non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous avons donc toujours confiance, et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous avons, dis-je, de la confiance, et nous aimons mieux être absents du corps et être présents avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable.
Nous serons alors avec lui dans la gloire céleste et régnerons avec lui sur la terre. Quoique le ciel soit alors notre domicile, nous pourrons sans doute aussi, comme Jésus, paraître aux yeux des habitants de la terre milléniale. Ayant été rendus conformes par la résurrection au corps glorieux de Jésus, Philippiens 3, verset 21, il nous sera aussi aisé d'apparaître, de disparaître et de nous transporter d'un lieu à un autre qu'il l'était au corps de Jésus pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Philippiens 3, verset 21.
Jésus-Christ comme Sauveur, qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire, selon l'opération de ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose.
Au surplus, nous en avons une indication dans les corps des saints qui, après la résurrection de Jésus, sortirent des sépulcres, entrèrent dans la sainte ville et apparurent à beaucoup de personnes. Matthieu 27, versets 52 et 53.
Les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent, et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs.
Mais n'oublions pas une chose, ce ne sera pas pour faire notre propre volonté ou pour satisfaire nos désirs que cette puissance miraculeuse des corps ressuscités se déploiera. Nous serons alors, par la bonté de Dieu, dépouillés de tout cela. Nous serons alors comme des anges de Dieu. Matthieu 22, verset 30.
Car dans la résurrection, on ne se marie ni on est donné en mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel.
Et mieux que cela, comme notre Seigneur ressuscité, quant à la nature de nos corps. Nous le serons aussi quant à l'absence totale de toute propre volonté et à la parfaite soumission à la volonté de Dieu. Le psalmiste parle des anges qui font le commandement de l'Éternel en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 103, verset 20.
Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole.
Et nous savons qui a dit
« Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Jean 5, verset 30. Quelle que soit la faculté que nous posséderons dans la résurrection, de descendre du ciel sur la terre et de remonter de la terre au ciel, nous ne le ferons jamais, nous ne désirerons même jamais de le faire, autrement que pour obéir à la volonté de celui qui nous enverra. Que signifierait la puissance la plus miraculeuse sans cette perfection morale qui consiste à faire abnégation de soi-même pour consacrer à Dieu son esprit, son cœur et sa volonté ?